chers auditeurs de Radio Courtoisie, très heureux de vous retrouver en ce libre journal des amitiés françaises pour 3 heures d'émission en direct. Nous recevons tout d'abord maintenant Nicolas Faguerre, qui est professeur de lettres modernes pour son livre aux éditions Salvator, Peggy. Un cœur qui a tant battu, balade sur ses pas. Et en effet, c'est à une balade sur les pas de Peggy, comme le titre du livre l'indique, que nous vous convions ce soir en compagnie de l'auteur. À 19h30, nous recevons Marianne Vanier, qui est professeure d'université, pour son livre collectif qu'elle dirige, un livre qui est consacré à la correspondance d'Hildegarde de Bingen et qu'elle publie aux éditions Beauchesne. Et bien sûr, nous allons parler de cette correspondance qui est un très beau témoignage historique et spirituel. Je rappelle que nous avons la chance d'avoir Laurent au standard. Il sera ravi, chers auditeurs, de prendre vos messages. Vous pouvez le faire par téléphone 01 46 51 00 85 01 46 51 00 85. N'hésitez surtout pas à le solliciter. Et puis, vous pouvez aussi le faire par courrier électronique à courtoisie@rc.fr. courtoisie@rc.fr. Et nous démarrons donc la première partie de cette émission. Nous arrivons vers vous du bout de cet océan, du bout de cette mer de blé qui balance. Nous voici devant vous, n'ayant d'autre espérance que d'un peu de repos au creux de votre élan. Ce sont les vers de Charles Peggy qui salue ainsi Notre-Dame lors de son arrivée à la cathédrale de Chartres, car évidemment Chartres c'est un des grands lieux de Charles Peggy, avec ce lien si particulier qu'il a avec Marie. La route de Charles Peggy, puisque nous allons parler ce soir justement des lieux qu'il a fréquentés, eh bien le dernier lieu qu'il a fréquenté est là où sa vie, sa route s'arrête le 5 septembre 1914, c'est à Villeroy où il est frappé d'une balle en plein front alors qu'il reste debout sur la mitraille, encourageant ses soldats. Il meurt en s'écriant « Mon Dieu, mes enfants ». La bibliographie sur Charles Peggy est très abondante, mais vient de paraître un essai au ton particulier et émouvant qui nous conduit en une belle promenade justement sur ces lieux qui ont marqué la vie de Peggy, ainsi Orléans, Paris, Chartres, Vaucouleurs et puis bien sûr Villeroy que nous venons d'évoquer. L'auteur de ce livre nous invite ainsi à une belle balade pleine de surprises émouvantes sur les pas de Charles Peggy, à la découverte, ce sont ses termes, des harmonies secrètes de son cœur et de sa personnalité. En effet, le sous-titre de son livre, c'est Peggy, un cœur qui a tant battu. Je signale, c'était hier, la très belle critique du Figaro littéraire sur ce livre, critique de Sébastien Lapac. Peggy, titre-t-il, la poussière et la lumière, sans pédanterie ni vaine érudition, l'auteur nous invite à emboîter le pas au poète dans une balade émerveillée. Eh bien, c'est cette balade que nous vous proposons ce soir en compagnie de Nicolas Faguerre. Nicolas Faguerre, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, est-ce que je dois dire Faguerre ou Faguerre?
Faguerre.
Faguerre, hein, ouais, je vous l'ai bien dit.
Ouais, oui, c'est un grand débat, mais en famille, oui, c'est Faguerre.
Et vous le tranchez, c'est parfait. Vous êtes déjà venu d'ailleurs à Radio Courtoisie, c'est la deuxième fois. Je vais néanmoins vous présenter aux auditeurs de la radio. Vous êtes agrégé de lettres modernes et docteur en littérature comparé, vous êtes un excellent pianiste, un compositeur aussi. Vos occupations professionnelles vous amènent à enseigner dans le secondaire, mais aussi dans le supérieur. Peggy, pour vous, est un grand centre d'intérêt. Je n'ose utiliser le terme passion. Je vous laisse la liberté de le préciser.
Vous pouvez,
effectivement,
vous
pouvez, hein. Une passion pour, donc pour Charles Peggy. Vous avez déjà édité une anthologie de textes de Peggy. Nous sommes tous à la frontière, c'est aux éditions Johannes Verlag, il y a quelques années. Vous êtes aussi un spécialiste et un traducteur de l'œuvre de Urs van Balthasar. et aussi un spécialiste d'un écrivain, Adrien von Speyer, qui est Urs von Balthasar, on connaît au moins le nom. Hein. Mais alors, Adrien von Speyer, ça, c'est un auteur qui vous touche qui est...
Alors, c'est un auteur effectivement un peu moins connu, donc c'était une femme médecin suisse, et Urs von Balthasar était son directeur spirituel, et lui-même disait que ses œuvres à lui de Balthasar étaient très importantes, mais tout aussi importantes étaient les œuvres d'Adrien von Speyer, dont il a pris note au fil des années et qu'il a édité en allemand. Et j'ai eu la chance de traduire quelques-unes de ses œuvres en français, par exemple un livre sur Job, hein, sur la confession. Il y a aussi un autre livre, enfin, que je n'ai pas traduit, mais qui est très connu d'elle, c'est La Servante du Seigneur, et c'est des œuvres qui ont une affinité secrète avec Peggy, voilà, et qui peuvent aussi donner des clés pour comprendre certains recoins de l'âme de Charles Peggy.
Par exemple?
Alors, ben, on y reviendra, mais par exemple, l'œuvre le Mystère de la Charité de Jeanne d'Arc, qui est toute une œuvre de 1910, où Charles Peggy présente la figure de Jeanne d'Arc, mais uniquement la petite fille de 12 ans avant qu'elle n'ait reçu les visions. Et ce qu'il fait, c'est nous montrer finalement quelle était cette âme de cette fille, qu'est-ce qu'il a pu se passer en elle pour qu'elle ait pu être capable d'accueillir des voix mystérieuses qui l'envoient dans une mission absolument inouïe de prendre les armes. Et lui, il va parler que de l'âme de cette petite fille à travers des dialogues avec différents personnages. Et je veux dire, c'est cette clé de lecture de me dire, mais quelle est l'âme de cette personne pour qu'elle soit capable de recevoir une vision surnaturelle? Et ça, je l'ai reçu de l'œuvre d'Adrien von Speyer qui s'appelle La Servante du Seigneur. Il y a un chapitre qui s'appelle L'âme de la Vierge. Et ça commence comme ça, en montrant quelles étaient les dispositions intérieures de Marie pour qu'elle ait été capable de recevoir la visite de l'ange, et que cette visite se fasse de façon aussi naturelle et aussi tendre, comme il est décrit dans l'Évangile de Luc.
Et j'étais aussi frappé par un détail de votre la présentation de votre parcours professionnel, si je puis utiliser ce terme, c'est que vous avez, en 2024, fait une conférence de carême à Notre-Dame de Paris. Alors, c'est extrêmement prestigieux, parce que conférence de carême, et vous l'avez fait sur le thème de Charles Peggy, une spiritualité de la communion.
Oui, alors, conférence de carême, on pense à la Cordaire, au Père Armogat, voilà, on se sent forcément...
Et à Bernard Brault, par exemple.
Voilà, tout à fait. C'est
extrêmement prestigieux. Quoi. Voilà, on prend que la crème de la crème, donc voilà. Visiblement, vous faites partie.
Voilà, Oui, on est dans une époque plus modeste. Donc, enfin, mon invitation conférence de carême était inscrite dans un cadre de renouvellement des conférences de carême, enfin, qui ont eu plusieurs versions au fil du temps. Et en 2024, il y avait eu l'idée de présenter différents auteurs catholiques, et de demander à des spécialistes, pour chaque auteur, de présenter l'auteur en lien avec un sacrement. Ça peut être, il y a eu Bernanos, il y a eu Claudel, il y a eu Léon Blois. Et moi, j'ai présenté Peggy, donc on était chaque conférence, un conférencier différent. Et le thème général, c'était la musique des sacrements, donc cette sorte de musicalité. Et alors moi, je suis trouvé assez vite face à une difficulté dont peut-être on va reparler, c'est que Charles Peggy a eu un chemin très riche, il retrouve la foi chrétienne à la fin de sa vie, mais c'est quelqu'un qui vit avec une femme républicaine qui ne veut pas de mariage à l'église. Donc ils sont mariés civilement, mais ils n'ont pas de mariage religieux. Ils ont trois enfants à ce moment, et la femme ne veut pas qu'on les baptise. Et alors, dans le droit canon de l'époque, vivre avec quelqu'un et avoir des enfants sans la bénédiction religieuse ne vous permettait pas d'accéder à la communion ni de recevoir la confession. Donc, il était en une sorte d'état, entre guillemets, de péché. Voilà, et pourtant, il avait tant de choses à dire, et des choses si merveilleuses et qui nous touchent encore. Et donc, finalement, je me dis, mais comment cet homme-là, qui ne vit pas les sacrements les vit quand même. Et c'est là qu'aussi la figure d'Adrien von Speyer a été une clé de lecture, parce qu'Adrien von Speyer, elle a cette formule qui est l'attitude, il n'y a pas seulement la confession, par exemple, mais il y a l'attitude de confession. Alors Peggy, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas vivre la confession sacramentelle, d'aller chez le prêtre et recevoir l'absolution, mais dans son âme, il vivait cette même attitude du pénitent, d'ouverture, de transparence, de fidélité, voilà, cette confession devant Dieu. Et c'est ce qu'on lit en particulier quand il va à Chartres. Il va à Chartres et il a ces vers merveilleux. Il dit « Ô reine, voici donc, après la longue route, avant de repartir par ce même chemin, le seul asile ouvert au creux de votre main et le jardin secret où l'âme s'ouvre toute. » Donc cette âme qui s'ouvre toute, Peggy peut le vivre non pas dans le confessionnal, mais par exemple dans un pèlerinage en arrivant à Chartres. Et là, elle dit, c'est la révolte ici qui devient impossible. Et de même, la communion eucharistique, bon, il ne peut pas communier, il ne peut pas recevoir la communion à la messe, mais la présence eucharistique dans le tabernacle est très importante pour lui. Il dit des choses très belles, il dit, en parlant des gens qui sont trop préoccupés de leur perfection morale, qui sont trop attentifs à leur saleté morale, il dit, mais pensez aux pèlerins qui arrive avec les pieds tout crottés, il rentre dans la cathédrale, il ne va pas regarder ses chaussures, il va regarder vers l'autel et vers le tabernacle, il va s'avancer vers le tabernacle, vers la présence. Et dans le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, il y a un moment où il montre Jeanne d'Arc est comme toute ravagée de douleur et de souffrance à cause du mal qu'elle voit dans son époque, tous les blasphèmes, les guerres, les enfants abandonnés, les viols. Comme désespérée, elle regrette le temps où Jésus était là, elle dit enfin si on pouvait vous voir, et à ce moment-là arrive une religieuse qui dit il est là comme au premier jour, éternellement parmi nous comme au jour de sa mort, son sang, son même sang coule sur l'autel. Voilà. Et donc il y a vraiment ce sens de la présence réelle, bien qu'il ne puisse pas communier. C'était l'idée de cette conférence, de montrer quelqu'un qui peut vivre les sacrements même s'il n'y a pas accès. Je crois que c'est une parole même de grande espérance pour beaucoup de gens qui ne peuvent pas vivre les sacrements de façon littérale. Mais il y a une attitude, un esprit qu'il est possible de vivre. Et en ce sens-là, Peggy est une figure même prophétique pour notre monde d'aujourd'hui.
Avez-vous évoqué durant cette conférence de carême à Notre-Dame de Paris, ce que vous évoquez à la fin de votre livre, juste avant sa mort, quelques jours avant sa mort, justement, il peut se confesser et il communie.
Tout à fait, oui.
C'est la première fois qu'il communie, d'ailleurs.
Alors, c'est une des grandes questions, des grands débats, Peggy, s'a-t-il communié ou non?
Ah.
Donc, on penche vers le oui, donc c'était pendant les manœuvres de la Première Guerre mondiale, c'est un 15 août, un lieu Loumont, il y a eu une messe de l'Assomption, et il y avait un frère capucin qui était présent dans la troupe, enfin dans la... Et Peggy appelait son chapelain personnel, mais qui était frère, il n'était pas prêtre, voilà, mais il était présent. Et c'était le seul témoin oculaire qui restait. Et dans les années 70, on l'a retrouvé, on lui a écrit, et il envoie une lettre assez touchante, parce qu'il dit « Honnêtement, je ne me rappelle pas si Peggy a communié ou pas. » Mais bon, il y a toute une tradition qui pense que... sans doute sur le point de sachant qu'il allait mourir, il a sans doute
il avait la conviction qu'il allait mourir.
Alors lui, quand il part en guerre, il part plutôt avec l'idée d'une guerre brève,
oui.
Et qu'il va revenir dans 2-3 semaines. Il part pour le désarmement général, il dit ça. C'est important de le dire parce que souvent on a l'impression d'un Peggy qui au début de sa vie est socialiste, fraternel, contre la guerre, et à la fin devient une sorte de nationaliste brutal qui veut pour lui c'était vraiment une guerre de défense, et c'était aussi une guerre lui il croyait beaucoup à une sorte de vocation de la France. Vocation de la France, c'est un pays, le pays de la liberté. La France a une parole à dire à l'humanité entière. Et voyez l'invasion allemande comme une menace aussi pour cette parole que la France a à dire aux yeux du monde. Et il voyait la France au fond un peu comme un nécessiteux, un peu comme les socialistes, comme socialistes, les nécessiteux, c'était les ouvriers en difficulté, le pauvre. Maintenant, c'est la France qui est nécessiteuse. Et il part espérant que ça dure peu. Et d'ailleurs, il dit à son amie Geneviève Favre, qui est la mère de Jacques Maritain, il lui dit. Je pars pour le désarmement général et quand je reviendrai, j'écrirai des choses encore plus grandes que celles que j'ai écrites.
Je vous propose d'en arriver, si vous voulez bien, à votre ouvrage, Nicolas Faguet,
Oui.
Peggy, un cœur qui a tant battu, balade sur ses pas, que vous publiez aux éditions Salvator. Deux questions très traditionnelles, mais néanmoins nécessaires. C'est d'où vous vient cette passion pour Charles Peggy, et puis pourquoi ce livre, avec une manière particulière, hein, qui est de cheminer, en effet, sur les pas de Peggy, sur les lieux qu'il a fréquentés.
Alors, c'est-à-dire, Peggy, c'est pas un auteur qui m'a immédiatement saisi. Quand j'avais 20 ans, en Hippocagne, j'étais plus attiré par Claudel, ses grands univers. Mais après, petit à petit, en lisant, j'ai fait des études de lettres, philosophie, à chaque fois, les œuvres de Peggy me laissaient une lumière particulière. Et quand j'ai eu la chance de pouvoir m'inscrire en thèse, en réfléchissant aux années passées, puis suivant diverses recommandations d'amis, je me suis lancé dans l'étude de Peggy, à la lumière aussi de cet auteur suisse Hans Urs von Balthasar, qui est en Suisse, voit Peggy de l'étranger. Et c'est extrêmement intéressant parce que le Peggy franco-français, il est toujours entre Jaurès, entre Dreyfus, entre la Première Guerre mondiale, la Troisième République, donc des questions souvent même d'histoire politique. C'est très intéressant, mais ça reste quand même très, très local. Et Antoine Balthasar, lui, il le voit de plus loin et il me dit « Non, mais attention, Peggy, en fait, il est en dialogue avec Dante sur tel point, sur tel autre, il dialogue avec Pascal ». Là, en fait, c'est Saint-Augustin, sur ce point-là, c'est Saint-Irénée de Lyon. Et donc, c'est une très grande joie de découvrir ce Peggy en dialogue avec une très grande tradition occidentale. Bon, comme ça, j'ai fait une thèse à la Sorbonne. Madame Dominique Millet-Gérard, voilà, une excellente claudélienne, une excellente directrice de thèse que je salue à l'occasion. Je remercie. Et après ma thèse, qui était en 2012, j'ai donné pas mal de conférences, j'ai approfondi certaines choses. Et j'avais, il y a un an, le désir de pouvoir restituer ce que j'aimais le plus, ce que j'avais trouvé le plus beau. Donc, parler de passion, c'est un peu ce qui m'a attiré, ce qui m'a fait vibrer, pour le rendre à des gens, enfin, pas les universitaires des colloques, mais pour tout le monde, pour tout le monde. Et c'est là qu'il y a eu un échange très beau avec mon éditrice, Gaëlle Delabrosse, qui elle s'occupe beaucoup de livres type marche, pèlerinage, des livres de voyageurs. Elle m'a dit, mais pourquoi ne pas faire de ton livre aussi un voyage? Et on a eu un dialogue au début et c'est elle qui m'a lancé dans cette manière d'écrire. Donc c'est un livre. C'est peut-être le seul, je crois que c'est le seul en son genre, et même non seulement sur Peggy, mais même en général. Donc, parler d'un auteur à partir de quelqu'un, donc là, c'est moi ici, c'est moi, à partir de quelqu'un qui a un rapport particulier avec cet écrivain, peut-être d'amitié, une sorte de compagnonnage. Et je me rends sur ces lieux. Alors, le livre, en réalité, fonctionne sur une double pérégrination. Il y a la pérégrination sur les lieux de Charles Peggy, avec Orléans, Paris, Chartres. D'ailleurs, c'est des lieux assez restreints, donc c'est quelqu'un qui a pu voyager dans sa vie. Et en arrière-fond, il y a la métaphore de la Seine et des boucles de la Seine. Moi, je commence le livre, j'habite à Mantes, j'ai mon balcon, je peux vous lire les premières lignes. J'ai enfin quelques minutes pour me poser sur mon balcon à Mantes et regarder la Seine. De loin surgit quelques péniches de marchandises. Je la vois qui passe derrière les arbres frais jonchant les bords du fleuve. Puis une embarcation toute blanche apparaît, des touristes sont attablés sur le pont, etc. Donc voilà, je vois. Et je me dis, mais cette scène, comme disait Jacques Prévert, elle n'a pas de souci. Cette chanson, la scène a de la chance, elle n'a pas de souci. Je me dis, c'est peut-être nous qui avons des soucis, mais en fait, si, elle a des soucis quand même, la scène, parce que c'est pas facile d'aller au Havre, elle doit faire tous ses tours, tous ses immenses détours. Et donc, elle a dû quand même lutter contre des terrains rocheux. Et je me dis un peu comme ces pèlerins qui parcourent le labyrinthe de la cathédrale de Chartres et qui, voyant le centre à quelques pas, sont emportés soudain dans d'infinis couloirs qui les mèneront beaucoup plus tard au but, à la Jérusalem du ciel symbolisée sur une dalle. Donc, la scène, un peu comme les pèlerins sur le labyrinthe de Chartres, fait beaucoup de tours. Et je me dis, mais nous aussi, la vie, c'est ça, la vie. Et puis, je me dis, mais au fond, là, la vie de Charles Péguy, c'est ça aussi. Et tout à coup, méditant ainsi sur le destin, je vois comme un visage reluire sur la surface des eaux. Et je me dis, c'est Charles Péguy, en fait, c'est une image de Charles Péguy. Alors je me dis, mais alors pourquoi ne pas remonter les sources intérieures de cette vie? Pourquoi ne pas retourner aux sources Orléans? Pourquoi ne pas suivre? Et donc, vous voyez, donc, cette balade sur les lieux a aussi comme arrière-fond cette métaphore de la Seine qui fait tant de tours. Et donc le livre aura aussi plusieurs chapitres qui seront la description des différentes boucles de la vie de Charles Péguy, la période socialiste, l'intérêt pour l'Antiquité, la boucle
D'où le thème,
chrétienne.
la boucle 1,
La boucle, tout à
la
fait.
source orléanaise, après il y a la boucle socialiste, il y a la boucle chrétienne,
Ouais,
etc.
la boucle
D'où
patriotique.
ce terme boucle à partir donc de ces méandres de la vallée de la Seine.
Et puis le
Ouais.
livre fait constamment des allers-retours entre le passé et le présent. Donc en allant sur place, par exemple à Orléans, je retrouve les rues, je lis des passages où Péguy parle de son enfance. Mais aussi, je reviens au présent. Et là, bon, par exemple, je regarde la Loire. Et là, je raconte, nous étions avec des amis, nous avons fini notre journée en longeant nous aussi la Loire. Aujourd'hui, on ne voit plus les chevaux aller des barques lourdes de troncs de bois. Un nouveau canal en béton régule le flux et des enfants volent sur des trottinettes électriques. Mais la Loire reste la même et le scintillement du soleil sur la surface des eaux est celui-là même qui a certainement ébloui les yeux du jeune Péguy. Ah, donc c'est constamment un aller-retour entre l'avant et le présent. Et dans ce présent interviennent aussi assez naturellement quelques souvenirs personnels. Et des situations d'école. Enfin, moi, je suis enseignant à Mantes-la-Jolie, à Mantes-la-Ville à côté. Et des anecdotes d'élèves qui viennent saupoudrer le récit.
Vous partagez votre passion pour Péguy avec vos élèves, parce que vous êtes à la fois enseignant dans le collège et puis dans le supérieur. Au collège, vous évoquez Péguy avec vos élèves, comment réagissent-ils? Ça, c'est la première question. Le corollaire aussi, en quoi Péguy peut-il encore nous parler?
Alors, j'en parle un petit peu dans les entrées du programme qui le permettent. Par exemple, en sixième, il y a une entrée qui s'appelle Création du monde et création poétique. Donc, ce sont les mythes de la fondation du monde. En lien avec la Genèse, je cite le début du Porche, du mystère de la deuxième vertu. C'est ce texte où Péguy raconte la foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. La foi, ça ne m'étonne pas. Et puis Dieu qui va toute la création. J'éclate tellement dans ma création, dans le soleil et dans la lune, dans les étoiles, dans toutes mes créatures. Voilà, ça c'est un texte qui en sixième plaît beaucoup et qu'on lit. Je fais lire à chaque élève un vers. Un, il dit dans toutes mes créatures. L'autre, il dit dans les astres du firmament, dans les poissons de la mer, dans l'univers de mes créatures. Donc on lit et puis ils l'apprennent par cœur et puis ils font des petits gestes. Et puis c'est une sorte de petit rituel de début d'année où on récite ce poème de Péguy. Chaque élève un vers, ce qu'on appelle une lecture serpentine. Voilà, comme une sorte de petit serpent. Sinon, en quatrième, dans la thématique de l'amour, là on peut lire en particulier un poème qui d'ailleurs me permettra de parler du titre, qui s'appelle La ballade du cœur
Oui.
qui a tant battu. Donc c'est un
Je
poème
souhaitais vous
de.
poser la
Ah
question, donc
ouais,
c'est
oui,
très bien que vous l'abordiez.
C'est un poème où Peggy, à un moment de sa vie, où il a eu un amour un peu caché pour une jeune femme, un amour qui d'ailleurs n'était pas partagé. Il a écrit des poèmes qui s'appellent La ballade du cœur qui a tant battu. Bon, là, il y a des poèmes que je peux reprendre dans la thématique de l'amour. Donc moi, j'ai repris ce poème où ballade est un type de poème, un peu comme sonnet ou la ode, ballade. Mais c'est écrit avec deux L, voilà. La ballade du cœur qui a tant battu, c'est avec deux L. Et moi, je reprends un cœur qui a tant battu, sous-titre, ballade sur les pas, sur ses pas, ballade avec un L, qui veut dire une promenade. Et voilà, c'est peut-être un terme un petit peu compliqué aussi pour des collégiens. Mais moi, il m'inspire beaucoup, non pas tant comme auteur que je transmets, mais l'esprit de l'enseignement. Lui-même, quand il était petit, il avait été très frappé par ses maîtres d'école. Il avait perdu son père, donc ses maîtres d'école, un peu des figures paternelles. Le père, c'est la paternité, la patrie, patrimoine. Donc, ce qui est paternel, il y a une idée aussi de transmission, de transmettre les héritages, transmettre les humanités du passé, transmettre tout ce qu'on a derrière soi. Et pour moi, c'est très inspirant, ça, parce que, l'éducation nationale, on a des programmes, souvent, on a des problématiques, il y a la question des compétences, voilà, parfois, c'est très jargonnant. Mais Peggy nous rappelle l'essentiel, c'est transmettre. Comme prof de français, c'est savoir lire, écrire, et transmettre les grands auteurs. Voilà. Bon, Peggy lui-même, il aimait beaucoup Victor Hugo, Corneille. Et là, j'allais vraiment être dans l'esprit de Peggy. C'est pas forcément enseigner Peggy, mais c'est transmettre ces grands auteurs qui ont beaucoup à dire.
Et l'autre question que je souhaitais vous poser, en effet, c'est en quoi Peggy peut-il encore nous parler à notre époque contemporaine?
Alors, Peggy, c'est un de ces auteurs qui ont brassé tellement de choses que dans beaucoup de domaines, on peut trouver quelque chose. Moi, je suis parti d'une amitié Charles Péguy, à des gens vraiment d'horizons très différents. Alors, comme enseignant, j'ai déjà dit quelque chose, ce goût de la transmission et des héritages. Après, il y a tout un regard du Péguy, on peut. Philosophe et philosophe du monde moderne. Finkielkraut en avait parlé aussi dans un de ses livres. Et il a des intuitions sur le mécanisme de notre époque. C'est des analyses très, très valables. Par exemple, lui dit, mais au fond, aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule force qui est à l'œuvre, c'est l'argent. Au Moyen Âge, il y avait l'argent, mais il y avait l'Église, il y avait les écrivains, il y avait la noblesse, il y avait l'armée, il y avait beaucoup de forces qui étaient en jeu. On se réduit dans une époque où, quoi qu'on dise, au fond, il n'y a plus que cette unique force. Et le véritable ennemi, quand on parle en chrétien du livre des évangiles, ce n'est pas les livres de pornographie, choses comme ça, c'est le livret de caisse d'épargne. Parce que tout est mis en œuvre pour qu'on ait la sécurité financière. Et qu'on n'ait plus finalement à vivre de l'abandon ou de la confiance, une certaine ouverture au surnaturel. Tout est mis en œuvre pour qu'on ait nos assurances temporelles avec l'argent. Donc, ça va être une de ses analyses. Puis des analyses sur les élections, des choses incroyables. Il écrivait en 1910, il parlait aux jeunes en disant, vient la génération qui ne croit plus à rien. Ces élections, ça vous semble du dernier grotesque, ça vous semble truqué, ça vous semble du dernier ridicule. On croit que c'est aujourd'hui, ça c'était 1910. Et pourtant, des gens sont morts, des gens ont donné leur vie pour que vous puissiez mettre ce bulletin dans l'urne qui vous semble du dernier ridicule. Voilà, un sens civique qui nous fait beaucoup de bien. On sera bientôt en période électorale. Voilà.
De tous ces lieux, balades sur les pas donc de Peggy, vous allez sur les lieux où il a vécu, en finissant d'ailleurs par le lieu de sa mort, Villeroy. Ces lieux sont-ils évocateurs et quel est le lieu qui vous a le plus touché ou celui où vous avez vraiment le plus retrouvé Peggy?
Alors, bien sûr, Orléans, on se balade, il y a la Loire, il y a la maison où il avait écrit la Jeanne d'Arc. Bon, sa maison natale a disparu. Bon, il y a Paris, la Sorbonne. Alors moi, je dirais peut-être le lieu qui peut-être le plus parlant, c'est les champs de blé de la Beauce. Enfin, les champs de blé. Peggy est quand même celui qui a vu dans des champs de blé des océans. L'océan des blés. Voilà, la mouvante écume. Quand il va vers Chartres, il dit voici étoile de la mer, voici l'océan des blés. Cette idée que quand on traverse des champs de blé, on est en train de naviguer et qu'on va vers une cathédrale. La cathédrale, c'est la forme d'un bateau, c'est un bateau retourné. Non, moi, Peggy, je le vois beaucoup là. Même si je vais en voiture, dans les champs de blé, et que les blés ondulent, même si malheureusement, maintenant, les blés sont plus bas à cause des progrès agroalimentaires. Mais là, je le vois beaucoup. Et puis, à Villeroy, là où il est mort. Donc tous les ans, il y a une cérémonie sur sa tombe. Et c'est une grande tombe qui est dans des champs. Il y a 216 noms.
C'est une tombe
Bravo.
commune.
Une tombe
À tous
commune,
ceux qui ont été tués dans ce combat.
ouais, une fosse commune qui est près de ce village de Villeroy. Alors, avant d'arriver au village, il y a un puits qui appartient d'ailleurs à l'amitié Charles Péguy. C'est le dernier puits où ils ont bu. Après, ils ont traversé le village, ils sont allés se battre, ils sont morts. Ceux qui ont survécu se sont ensuite regroupés sur ce puits. Donc ce puits, au milieu des champs, le silence, voilà, et la grande tombe avec tous ces noms, ces 216 noms. Et on sait qu'il y avait, parmi ces soldats, il y avait même des Marocains, il y avait des... Donc c'est interreligieux. Et Peggy, c'est l'homme qui, quand il était étudiant, il a rêvé d'une fraternité universelle, les hommes de toutes les races, de toutes les religions, de toutes les cultures. Et là, dans cette tombe, on le voit réuni à des gens de toute origine, et ça, c'est extrêmement émouvant. D'ailleurs, lui-même avait dit à un de ses amis qu'il avait laissé son cœur à Chartres et qu'il voudrait être enterré à Chartres. Mais la famille Péguy, et puis même, en fait, on a compris qu'il doit rester là avec ses frères humains, comme il dit en reprenant Villon. Il dit, voilà, heureux ceux qui sont morts. Voilà. Il est là, voilà. Il est là, l'un parmi d'autres. Il n'a pas une grande stèle comme un grand écrivain, mais il est l'un parmi les autres. Et peut-être que ce que me disent les lecteurs de mon livre, voilà, c'est qu'ils se rendent compte que Peggy peut être un camarade, un parmi nous. Voilà. C'est peut-être l'un des fruits de ce livre, c'est savoir. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de rendre compte que ce monsieur n'est pas seulement quelqu'un qui a beaucoup écrit, qui a un itinéraire avec beaucoup de méandres, mais c'est aussi quelqu'un qui est à côté de nous et qui peut nous aider.
Et d'ailleurs, vous précisez que, il a apprécié ces périodes militaires. Il aimait le monde militaire,
Oui.
il aimait la vie militaire qui trouve son aboutissement d'ailleurs, hein,
Oui.
dans cette tombe commune. Et il est parmi ses camarades, en quelque sorte. C'est un aspect de pays qu'on ignore souvent, le fait qu'il a aimé cette vie militaire.
Oui, donc il participait aux manœuvres qui duraient 3 semaines, je crois. On a des photos de lui en uniforme, et effectivement, il est avec des amis, il a l'air très content en uniforme. Je me demande s'il n'y a pas une sorte de dimension un peu scout,
Oui,
une sorte de scoutisme avant la
pour
lettre.
l'armée, c'est un grand
L'armée,
scoutisme.
c'est un grand scoutisme, tout à fait, de se trouver entre gars, un peu comme en classe préparatoire, où voilà, il y a un ordre, il y a un but, on est au service de la patrie, peut-être un dépassement de soi aussi, voilà, un oubli de soi pour plus que soi.
Je vous propose de progresser, de parcourir avec vous un certain nombre de ces lieux que vous évoquez dans votre livre, Nicolas Faguet, Péguy, un cœur qui a tant battu, balade sur ses pas, et tout naturellement, la balade commence par Orléans, les sources orléanaises. Sa maison natale, vous l'avez précisé, aux 48 rues de Bourgogne n'existe plus, mais néanmoins, vous venez nous expliquer qu'Orléans, c'est quand même très évocateur de la vie de Péguy. C'est l'occasion de préciser effectivement qui était sa famille, ce père qui est mort très très tôt, lui aussi des séquelles de la guerre de 1870, et puis sa mère et sa grand-mère, hein, qui étaient rempailleuses de chaises. Je vous laisse évoquer ce que vous voulez nous préciser, justement, d'Orléans, la source orléanaise.
Oui, eh bien, il vivait dans un quartier ouvrier avec sa mère et sa grand-mère, qui étaient rempailleuses de chaises. Et il a cette belle formule, il dit qu'il a vu toute son enfance rempailler des chaises du même cœur et de la même main que ce même peuple avait taillé ses cathédrales. Donc le soin que sa mère avait à tisser des chaises est le même que ce même peuple avait eu à tailler la cathédrale d'Orléans et toutes les autres. Il a vécu, disons, une famille très laborieuse. Lui-même allait à l'école, il était très, très, très laborieux. Il raconte qu'il faisait des courses aussi à la maison, à qui, si lui faisait plus vite les devoirs, ou sa mère et sa grand-mère à rempailler. Ils étaient dans une dynamique de grand travail. Et il est très brillant, après mais il est de famille pauvre. Donc, il arrive premier au concours de l'école primaire, mais n'ayant pas de bourse, n'ayant pas d'argent, il va au lycée technique. Et c'est là que le directeur du lycée technique à Pâques se rend compte que ce gamin est quand même très très fort et lui propose d'intégrer le lycée général où il fera du latin. Et de là vient cette phrase très connue sur le Rosa Rosae. Mm-hmm. Le grammairien qui, une fois la première, ouvrit la grammaire latine sur la déclinaison de Rosa Rosae n'a jamais su sur quel parterre de fleurs il ouvrait l'âme de l'enfant. Donc le grammairien, donc le professeur qui ouvrit la grammaire latine sur la déclinaison de Rosa Rosae, bon, ça veut dire rose, hein, Rosa, n'a jamais su sur quel parterre de rose il ouvrait l'âme de l'enfant. Et ça serait souvent, quand on enseigne, on n'a pas idée de ce qui se passe dans l'âme d'un enfant, quel émerveillement il peut se passer. En tout cas, pour lui, cet émerveillement, on voit Rosa Rosae, c'est tout un monde qui s'ouvre à lui. Bon, il sera excellent élève, et c'est ça qui l'amènera à Paris ensuite à...
Dans ce chapitre consacré aux sources orléanaises, vous évoquez une personnalité qu'il marquera à jamais, parce que ça va le conduire à cet engagement qui peut surprendre, hein, très, très socialisant, très socialiste, en tout cas dans une première étape de sa vie, mais c'est un socialiste très généreux, très altruiste, ouais, hein, ouais. Qui va par la suite d'ailleurs le mener à se convertir à la religion chrétienne. C'est son voisin Louis Boitier. Vous évoquez ce personnage et puis ce qui le marque aussi à Orléans particulièrement, c'est le souvenir émerveillé qu'il garde des apprentis hussards noirs de la République parce qu'il se trouvait juste à côté de l'école normale, l'instituteur.
Oui, donc ce Louis Boitier, c'est un artisan qui lui fait découvrir Victor Hugo, qui lui prête son premier Victor Hugo, les Châtiments. Et ces hussards noirs, donc ce sont en fait des professeurs stagiaires qui viennent faire leur stage dans la classe où se trouve Charles Péguy. Donc chaque semaine, il y avait un nouveau stagiaire. Et il garde un souvenir émerveillé de cette fougue, cette dimension presque missionnaire des premières générations d'enseignants qui étaient formés pour instruire tout un peuple. Et de Louis Boitier, peut-être on peut retenir déjà le fait qu'il était artisan, le bois. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera dans toute l'œuvre de Péguy, l'importance du bois, qui est une matière qui demande du temps, de l'effort, du respect, par rapport au béton, qui est la matière dont on fait ce qu'on veut. Voilà, et puis le bois, on retrouvera aussi dans le bois de Jésus. Jésus qui sera à l'atelier, enfin des années plus tard, il parlera de Jésus en croix qui se rappelle à la bonne odeur du bois frais, fraîchement coupé, fraîchement taillé, fraîchement scié, du bois quand on enlève l'écorce, quand on la pulure, comme un beau fruit. Voilà, ce sont des vers que je lis. Et là, bon, ça, ce qu'il dit de Jésus dans l'atelier, en fait, c'est toute son expérience à lui, même son expérience olfactive, sensorielle, qui vient de ses origines ouvrières.
C'est à Orléans qu'il est marqué par le personnage de Jeanne d'Arc, déjà ?
Oui, bah Orléans, oui. Cette statue qu'on voit dans la place, la place Jeanne d'Arc, en arrivant à Orléans. Oui, puis tous les ans, il y a les cérémonies de Jeanne. Et pour lui, de façon curieuse, Jeanne d'Arc, c'est bien sûr une sainte, mais elle deviendra la figure de l'action, l'action par excellence, le souci d'autrui, donner sa vie pour les autres, et l'incarnation du socialiste, en fait, enfin, ou du communiste, ou de l'homme, l'homme qui donne sa vie pour autrui.
À Orléans, il est chrétien déjà, ça, il reçoit une éducation oui. chrétienne parce qu'il va perdre la foi.
Oui, oui, donc lui, oui, oui.
Quand il est étudiant, il reçoit une première. D'ailleurs, vous précisez cette éducation chrétienne qu'il en oubliera tout.
Alors, enfin, lui-même, il dit. Donc, oui, il était baptisé, il y a les fonds baptismaux sont à l'église Saint-Aignan. Il est baptisé, puis première communion, il fait la confirmation au lycée, le lycée d'État, ce qui montre qu'à l'époque, la religion et une confirmation pouvait se faire dans la chapelle d'un lycée d'État, ce qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus. Mais il quittera, en tout cas, l'adhésion à l'Église quelques années plus tard, quand il sera à Paris. Il y a beaucoup d'éléments à ça. L'un des éléments, c'était l'affaire Dreyfus, comment tout le camp clérical était anti. Lui, il a senti qu'il fallait quand même soutenir Dreyfus. Il était attaché quand même aux œuvres de charité. Il était aux conférences Saint-Vincent-de-Paul, mais il avait le sentiment que ces œuvres de charité étaient trop limitées. C'était uniquement, au fond, de la charité que font les riches pour quelques pauvres. Et ça manquait du souci d'une transformation de fond. Et puis surtout, il ne comprenait pas comment on peut parler de charité, d'amour, et en même temps enseigner l'enfer, l'enfer éternel. Ça, c'était son grand problème. Et il dit, écoutez, moi, je préfère renoncer à la foi, à l'Église, mais adhérer pour une idée où il n'y a pas d'enfer. Cette idée, cette idée socialiste de fraternité, on laisse de côté la question de l'éternité, mais au moins ici sur Terre, on fait de tout pour qu'il n'y ait pas d'enfer. Et ça, c'est la raison de fond, donc c'est cette recherche d'une fraternité, d'une communion déjà. Mais c'est en fait suivant cet idéal de communion qu'il a dans son cœur, qui d'abord lui fait quitter l'Église, et après lui fait redécouvrir les Évangiles. Voilà. Ce n'est pas d'abord l'Église qui retrouvera les prêtres, les cérémonies, mais c'est les Évangiles et la figure de Jésus, comme celui qui vit réellement cette soif de réunion, de rassemblement universel.
C'est ce désir de charité qui lui fait quitter l'Église et qui le ramène à l'Église.
Oui.
Combien de temps entre... il quitte l'Église, il est étudiant quand il...
Oui, il a 20 ans, plus ou moins.
Il a 20 ans, c'est ça. Et à quel moment retrouve-t-il...
Il aura 38 ans environ.
Il y a quand même une grande traversée,
ouais,
en effet.
Ouais, parce que dans mon livre, j'appelle la boucle socialiste.
Vous
l'aurez
évoqué avec vous, bien sûr, cette grande traversée. Et nous allons faire une petite pause, d'ailleurs. Écouter un message de la radio. Et puis revenir, bien sûr, sur ces années parisiennes, ces premières années parisiennes. Il pousse la porte... du lycée Lacanal, parce qu'il va commencer une hypocagne, dans le but de rentrer à Normale. Et puis, il va changer de lycée, il va aller au collège Sainte-Barbe, rue Valette, à Paris. Et là, vous évoquez ce collège, et des pages qui sont particulièrement intéressantes. Et après cette pause, je vous propose d'évoquer effectivement ce que vous dites de ce lieu de mémoire, le collège Sainte-Barbe, où vous avez retrouvé la mémoire, en effet, de Peggy. Alors, nous allons écouter donc un message rapide. Message important, mais non moins rapide. Radio, suivi d'une pause musicale que vous avez choisie, qui est dont le titre est Prends Seigneur et reçois. Et cette pause musicale, c'est vous qui l'avez composée, parce que vous êtes aussi musicien et compositeur. Je vous laisse nous expliquer pourquoi ce choix et qu'est-ce que c'est que cette pause musicale Prends Seigneur et reçois. Et quel lien vous faites avec Charles Péguy?
Alors, ce texte, c'est un texte de Saint Ignace de Loyola, un texte qui est dans les exercices spirituels, où le retraitant dit à Dieu, « Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, ma volonté. » Donc, c'est un texte d'offrande qui m'avait été demandé par des jésuites, enfin, un ancien aumônier jésuite avec qui on avait déjà écrit un chant à la Vierge pour Chartres, pour le pèlerinage de Chartres en 2002. Donc, il y avait déjà une présence péguiste. Caché en 2002. En 2006, il m'avait demandé de mettre en musique ce chant pour trois voix égales, trois voix d'hommes, pour qu'eux-mêmes puissent le chanter dans leur cérémonie. Donc il y a trois voix, et à toute dernière ligne, il y en a quatre, il y a quatre voix. Et l'intérêt, c'est que Ignace de Loyola a vécu au Collège Sainte-Barbe, là où Peggy aussi se retrouvera quelques 400 ans plus tard. Ignace était avec François-Xavier, celui qui s'appelle Saint-François-Xavier, le grand missionnaire. Et tous les deux ont... Peggy ne connaissait pas... Enfin, il était critique des jésuites, un peu comme Pascal, bon, cette critique habituelle, mais il est spirituellement proche de Saint-Ignace de Loyola, dans la mesure où tous les deux, ils sont contre tout retrait dans le pur spirituel, mais il faut s'engager auprès des gens, il faut aller, il faut s'occuper du monde. Ils ont tous les deux ce sens d'engagement social dans le temporel, et aussi une dimension verticale de prière. Et il me semble que cette musique peut un petit peu montrer quel sera le tournant de Peggy après le socialisme. Voilà, il se passe quelque chose de nouveau.
Bien, alors nous écoutons.
Face à l'offensive de la gauche pour bâillonner les médias vraiment libres, Radio Courtoisie a plus que jamais besoin de vous pour se renforcer, pour se protéger, pour défendre vos idées. Vous êtes 1,5 million, presque 2 millions à nous écouter, mais vous n'êtes pas encore 20 000 à nous donner. Vos idées valent bien 1 euro. 1 euro pendant l'été, pourquoi pas 1 euro par mois? 1 euro pour garantir vos idées. 1 euro contre la censure. 1 euro pour rester libre. Cet été, aidez Radio Courtoisie à donner de la voix. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris. Radio Courtoisie, libre et indépendante, grâce à vous.
Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous poursuivons notre conversation avec Nicolas Faguet autour de son très beau livre, très émouvant, sur les pas de Charles Peggy, Peggy un cœur qui a tant battu, balade sur ses pas, qu'il publie aux éditions Salvator. Après avoir introduit effectivement le thème, l'importance de Peggy, l'actualité de Peggy, de Charles Peggy, eh bien, Nicolas Faguet nous conduit à travers ces différents lieux de mémoire. Nous avons commencé, on a déjà évoqué en effet Villeroy, hein, qui est commencé par la fin, mais que c'est certainement extrêmement poignant comme lieu de mémoire en effet de Charles Peggy. Il est mieux quand même à Villeroy, enterré à Villeroy, qu'au Panthéon, vous ne croyez pas?
Oui.
C'est moins froid et beaucoup moins anonyme.
Bon, son nom est inscrit quand même au Panthéon.
Il est au Panthéon.
Enfin, sur une liste d'écrivains morts à la guerre. Donc,
ah oui.
Donc son nom est inscrit quelque
d'accord.
part.
D'accord. Bon, il est quand même un peu au Panthéon alors. Et puis, vous avez évoqué Nicolas Faguet, en effet, Orléans. Et nous arrivons maintenant à Paris, puisqu'il rentre d'abord au lycée La Canale pour Paris, en Hippocagne, pour Paris Nord-Sup, et puis après, donc, le collège Sainte-Barbe, que vous évoquez abondamment, c'est, je vous propose de le faire, hein, dans votre livre. Nous avons le message d'un auditeur. Dans notre jeunesse, Peggy écrivait « Les patries sont toujours défendues par les gueux, livrées par les riches ». Une remarque nous fait cet auditeur. Aujourd'hui, cet écrivain semble récupéré autant par la gauche que par la droite.
Oui. Je ne sais pas si récupérer c'est le bon mot, mais c'est un auteur où tout le monde trouve quelque chose. Moi, j'ai l'amitié Peggy. Il y a des gens qui, enfin, il y a des juifs, des gens de droite, de gauche, des chrétiens, des athées, des francs-maçons.
Les amitiés Peggy, ce sont des.
C'est une association autour de Charles Peggy qui a été fondée en 1942. Pendant la guerre, un peu comme acte de résistance pendant l'occupation. Et souvent, les gens qui aiment Peggy, ils ont aussi leur Peggy, disons. Ils préfèrent le Peggy, peut-être le Peggy politique, ou le Peggy poète, le Peggy chrétien, le Peggy de l'éducation. Et c'est toujours une grande difficulté de voir l'ensemble de la personne. Voilà, ça c'est toujours. Moi, un peu mon hypothèse, aussi en m'appuyant sur Anne-Françoise Balthazar, c'est l'unité du cœur. Voilà, c'est quelles sont les aspirations profondes qu'il a eues dès le début et qu'il déploie au fil des années. Donc, par exemple, cette aspiration à la fraternité, à la charité. Du coup, il dit, bon, la solidarité, c'est ça ce qu'il faut. Après, il retrouve la charité chrétienne. Ou cette idée de l'ensemble, à début, c'est une sorte de collectivisme, c'est l'unité des nations. Et puis après, ça devient la communion des saints, c'est-à-dire les vivants et les morts. Mmh. Et c'est toujours ce qu'il sent dans son cœur. Il cherche une résonance entre ce qui sont lui et des propositions. Enfin, soit lui-même se donne des solutions, soit il retrouve des solutions qui viennent du dehors. Et je crois que le cœur est peut-être ce qui permet de voir l'unité de Peggy. C'est pour ça un cœur qui a tant battu. Voilà.
Vous écrivez dans cette boucle parisienne, deuxième partie de votre livre « Monter à Paris », bien qu'excellent étudiant, Peggy n'en dehors pas moins une personnalité à part. Quelle est sa personnalité? On vous avait parlé de son cœur, en effet, mais quelle est sa personnalité?
Alors, qu'on voit dans les photos, quand il est avec ses amis, bon, d'abord, c'est quelqu'un qui n'était pas très grand. Il n'était pas très grand, il avait l'air quand même fort. Il est né au mois de janvier, mais c'est presque un taureau, en fait. On devait lui donner un signe du zodiaque. Je pense quelqu'un très déterminé, qui avait de l'humour. Il avait cet humour, on disait cet humour un peu paysan, voilà, qui vient des faubourgs d'Orléans, mais aussi une gravité. Et je crois qu'il avait très tôt une sorte de conscience de mission qui lui incombait quand même. Il n'avait pas de temps à perdre. Le monde va trop mal pour qu'on perde du temps. Le mal est trop envahissant. Il y a trop de choses. Voilà, on peut pas perdre de temps. Voilà. Et je crois que lui, un peu, c'est cette même diligence qu'avait sa mère à travailler. Je pense que lui il a vraiment pris sur lui. Et
vous voulez dire par là que c'est quelqu'un qui avait une grande empathie?
Je pense que oui.
Pour vivre comme cela, si douloureusement le mal de ce monde, et dire ben, on n'a pas le temps, le mal est là, il faut agir, c'est qu'il devait le ressentir fortement.
Oui,
donc
oui,
avoir
oui,
une
oui.
grande empathie.
Oui, je pense que oui, une grande empathie, peut-être une certaine. Une certaine impatience. Et je crois qu'il était extrêmement exigeant avec soi-même, avec autrui. D'ailleurs, on sait qu'au fil des années, il a eu beaucoup des amitiés qui se sont rompues et renouées. Ouais, c'était pas un homme du compromis. C'était un homme du oui-oui, non-non. une personne très très intègre. Il y a une petite histoire que je raconte, enfin, que rapportent ses amis. Un jour, ils étaient dans la cour des Hippocagnes, la cour rose, il appelle. C'est
Donc au lycée Sainte-Barbe,
au lycée
hein, au collège
Sainte-Barbe.
Sainte-Barbe, oui.
Et aujourd'hui, quand on va à la bibliothèque Sainte-Barbe, on peut rentrer, on voit la cour. Elle est rose parce qu'il y a des briques roses. Et il y a un jeune de bonne famille qui dit, il arrive et dit, écoutez, j'ai appris qu'il faut miser sur tel cheval à la prochaine course à Longchamp. Voilà. Et donc là, ils écoutent, ils disent, ah, et là, Peggy, non, il faut. Et là, d'un ton très sévère, il les regarde et dit, on ne joue pas. Voilà. Bon, c'est une petite anecdote qui dit quelque chose du sens qu'il avait. Des responsabilités dans la vie.
Un tuteur aimerait bien que vous récitiez le quatrain sur la Beauce, étoile de la mer, etc. Mais je propose qu'on le garde pour si vous qu'on le garde lorsque vous avez évoqué le pèlerinage à Chartres.
Oui.
Hein, qu'on le cite à ce moment-là. Donc cette boucle parisienne montée à Paris, vous avez parlé en effet, vous êtes allé au collège Sainte-Barbe. Et que voudriez-vous signaler aux auditeurs de Radio Courtoisie justement sur les lieux de mémoire à Paris, que vous mettez en avant dans votre chapitre?
Oui. Alors, moi, je suis une balade que je peux recommander aussi. C'est partir de la place Maubert.
Oui.
Alors, place Maubert, on rappelle, c'est Maître Albert le Grand, qui était le maître de philosophie de Saint-Thomas-d'Aquin. Avec la place Maubert, on est enraciné dans la Sorbonne et de la scolastique. Et là, on monte la rue Valette. Et il y a un endroit qui va me surprendre toujours, c'est sur la gauche, une petite église Saint-Éphrem. Je crois que c'est Saint-Éphrem, voilà. Et on a l'impression d'être à Rome un petit peu pendant un petit moment. Bon, mais là, voilà, on ne se laisse pas séduire par cette touche romaine. On monte et sur la droite, on trouve le collège Sainte-Barbe, qui maintenant est une bibliothèque. On peut rentrer, on peut voir la cour. C'est là qu'a été faite une fameuse photo de tous les élèves d'Hippocagne, d'Hippocagne-Cagne. On monte au Panthéon, on peut faire le tour et aller de l'autre côté à l'école normale supérieure, où Charles Péguy a été admis. Si on entre à l'intérieur, il y a ce qu'ils appellent le cloître. Bon, c'est une cour au fond assez sobre. Et on peut imaginer dans une des fenêtres la chambre de Péguy qu'on appelle une turne.
La turne utopie.
La
c'est lui
turne
qui l'avait baptisé.
Voilà. Cette
utopie. Utopie. Tout un programme.
Ouais, ouais,
il est vraiment socialiste, là.
Oui, il avait un ami. Marcel Baudouin, et tous les deux, voilà, ils ont imaginé cette utopie. Bon, et puis de là, on peut revenir, on passe devant le Panthéon. Là, il y a la mairie du 5e arrondissement. C'est là où Péguy s'est marié, d'ailleurs. On peut imaginer Péguy qui épouse Charlotte Baudouin. Et si on reprend la rue de la Sorbonne, on va voir d'abord, au coin de la rue Cujas et rue de la Sorbonne, une plaque qui indique où était la première librairie de Péguy. La première. Et aujourd'hui, bon, c'est une crêperie kebab. Les crêpes, d'ailleurs, sont excellentes.
Vous l'avez testé.
Oui, banane chocolat. Oui, c'était avec une amie, là, une fois. Oui, c'était excellente. Mais je rappelle que quand on avait dû mettre la plaque qui est au-dessus de la porte, ça avait été toute une affaire parce que la plaque passait au-dessus de la porte et puis les gens qui rentraient passaient sous l'escalier avec leur kebab. Voilà, ça avait été une chose assez complexe. Bon, et on redescend la rue de la Sorbonne au numéro 8. Se trouve une plaque qui indique ici Charles Péguy, ici se trouvait la boutique des cahiers, donc de 1900 à 1914, vraiment l'emplacement où Péguy travaillait, vendait sa revue, recevait les gens, était avec son administrateur, Monsieur Bourgeois. Au grand malheur, cette boutique qui a appartenu pendant des années à l'Université de la Sorbonne comme librairie, dans laquelle on pouvait entrer et voir des images de Péguy, bon, a été vendu. Et depuis, je dirais, 2-3 ans, il y a un café d'une enseigne japonaise, juste en dessous. Alors ça, c'était, en un sens, un grand drame. Voilà, on dit, mais enfin, c'est pas possible, ce lieu mémoriel qui devient un lieu de consommation, en plus japonais. Mais moi, je veux dire, c'est quand même très... Il y a une part positive, c'est qu'on peut rentrer, On peut prendre un café, un gâteau, et on peut s'asseoir à l'intérieur et rester. Parce que dans une librairie, on ne peut pas beaucoup rester. Enfin, on entre, il faut acheter, mais on ne peut pas. Et là, on peut rester. On peut venir avec un Peggy, on peut lire, on peut fermer les yeux. Et on peut imaginer Peggy qui est là. On a des photos de l'époque. On voit Peggy dans cette même boutique. Et faire une sorte d'expérience proustienne, voilà, une sorte de Madeleine. Voilà, on s'imagine la vie. C'est ce que je fais d'ailleurs dans un chapitre, sur la boucle socialiste, où je rentre dans ce café, je ferme les yeux et j'imagine. Et voilà, ça, c'est une expérience que je recommande à tout le monde de faire. Quand vous êtes dans le quartier latin, vous ne savez pas où aller prendre un café près de la Sorbonne, vous allez au numéro 8. Voilà, donc ça, c'est cette petite balade que je peux recommander.
Alors, cette balade évoque des événements importants dans la vie de Charles Peggy, parce qu'il est rentré à Normal, il va se marier avec tout le monde. Je vous laisse expliquer les circonstances assez dramatiques de son mariage. Il y a une photo de son mariage que vous proposez dans le livre.
Ah oui.
Ils n'ont pas l'air gays. Hein.
Oui.
Ni lui et elle. Hein. Ah franchement, ouais. Pas l'air gays. Et puis, il abandonne, quitte. Il quitte Normal. Alors, il fait son service militaire aussi. Il devance en quelque sorte l'appel. Hein. Il aurait pu rester à Normal. Il quitte Normal pour fonder justement cette librairie socialiste. Et puis aussi, c'est le temps de ses premières œuvres. Notamment sur Jeanne d'Arc. Je vous laisse évoquer tout cela, si vous le voulez bien.
Alors, son mariage, ça ne correspond pas aux séries Netflix, de Tombe amoureux, on va à Venise, je ne sais pas où on demande la main.
Hein.
Voilà. Non, c'était... donc, sa femme, Charlotte Baudouin, était la sœur de son meilleur ami, Marcel Baudouin, qui était son camarade de Couturne, avec qui ils avaient fondé cette Turne Utopie, avec qui ils avaient rêvé d'un monde nouveau. Et ce Marcel Baudouin meurt très jeune, dans des circonstances pas très claires, en service militaire. Et Peggy épouse la sœur, une sorte de fidélité un peu médiévale. Il épouse la sœur, c'est une jeune femme blonde, avec des belles tresses, qui est d'une famille républicaine très engagée. Une famille austère, sérieuse, et Peggy, il s'y sent bien, voilà, il s'y sent bien accueilli. Et l'argent de la famille, de la dot, va dans la fondation de cette revue. Alors pourquoi Peggy fonde-t-il une revue alors qu'il est normalien? Il avait un destin tout tracé de agrégation, thèse, enseignement à la Sorbonne, mais il ne passe pas l'agrégation de philosophie. Il échoue à l'agrégation. Ce qui, d'ailleurs, peut être une consolation pour tous ceux qui échouent à des concours. Oui, d'ailleurs, Alain Fournier, lui, a échoué à une école normale supérieure. Bon, il y a toute une tradition, Zola qui n'a pas le bac, voilà, il y a toute une tradition de grands écrivains de l'époque qui échouent. Donc, lui-même échoue, et ce qui fait que son parcours universitaire s'interrompt. Il croit qu'il a échoué à cause de ses idées socialistes. Apparemment,
il aurait été puni pour ses idées.
Oui, il aurait été puni. Alors, il fonde cette revue où va l'argent et il commence à publier ses premières œuvres. Alors, les deux premières œuvres sont antérieures à la revue. La première, c'est une pièce de théâtre composée de trois pièces de théâtre qui fait 700 pages, qui s'intitule Jeanne d'Arc.
15 heures.
Voilà.
Je peux que le préciser.
Voilà, encore plus long que le soulier de satin. Voilà, c'est... première pièce sur Don Rémy, une deuxième sur les batailles, une troisième sur Rouen. Et c'est un merveilleux volume du point de vue typographique. Ce que Peggy mettait le même soin que mettait sa mère dans les chaises, le mettait dans la typographie. Voilà, c'était un peu un fanatique de la belle page. Et ce texte de 700 pages, aussi des pages blanches, pour qu'on puisse méditer sur ce qu'on lit. Il y a de la prose, il y a de la poésie. Il vend un seul exemplaire.
En plus, c'est sur très beau papier.
Voilà, sur très beau papier.
Un seul exemplaire.
Voilà, il en vend
qu'un seul. Comment expliquez-vous cet échec?
Je pense que c'était tellement en dehors des attentes commerciales. Et je pense qu'il n'y avait pas non plus de réseau de diffusion. Il devait manquer. Et sa deuxième œuvre s'appelle Marcel, premier dialogue de la Cité harmonieuse. Donc Marcel, c'est son ami Marcel Baudouin, le frère de sa femme, donc, qui est décédé. Et il écrit un texte où tous les deux imaginent ce que serait une cité idéale. Et pour lui, cette cité idéale, ça serait, je lis juste la première phrase, la cité harmonieuse, il appelle cité harmonieuse, a pour citoyens tous les vivants qui sont des âmes, tous les vivants animés. Et puis il fait une liste des hommes de tous les métiers, de tous les villages, de tous les bourgs, les riches, les pauvres, de toutes les nations, de toutes les religions. Et il dit même, même tous les animaux aussi, mais tous les animaux. Donc il commence sa vie avec deux œuvres, cette œuvre qui est l'idéal d'une cité harmonieuse, et une œuvre sur Jeanne d'Arc. Et les deux sont intimement liés, parce que celle de la cité harmonieuse dit quel est l'idéal qu'il a à cœur. C'est une cité où on ne ferme la porte à personne. Et c'est pour ça qu'il dit aux catholiques, moi je ne veux pas de votre système, on ferme la porte à des gens. Et en même temps, il dit, mais cette cité ne va pas se construire toute seule. Parce qu'il y a la liberté qui est à l'œuvre, il y a les volontés, le bien, le mal. Pour ça, il y a aussi Jeanne d'Arc, comme modèle de celle qui a tout donné pour l'établissement, au fond, d'une cité harmonieuse. Donc, ce sont un peu les deux piliers de sa pensée. Cet idéal de fraternité, de cité harmonieuse, et l'exigence de soi-même tout donner pour que cette cité puisse s'établir. D'ailleurs, c'était un grand débat qu'il avait avec Jaurès, qui lui croyait à un progrès automatique. Et Peggy lui répond, mais non, il n'y a pas de progrès automatique. Voyez ce qui se passe dans les colonies, voyez ce qui se passe avec les Juifs, ce qui se passe avec les Arméniens. Au contraire, c'est plutôt, si on laisse aller les choses, c'est plutôt le mal qui prolifère. Il faut remonter, il faut se battre.
Mais de quoi vit-il? Comment fait-il pour vivre? Il vend si peu d'ouvrages. Comment fait-il pour vivre, nourrir sa famille?
Ah, pour nourrir. Donc, oui. Il vit de fait très modestement de sa revue.
Donc, les Cahiers de la Quinzaine.
Les Cahiers de la Quinzaine, qu'il lance en 1900. Et ça s'appelle Cahiers de la Quinzaine parce que au début, ça va sortir tous les 15 jours. Et c'est destiné d'abord à des lecteurs de province. En tout cas, c'est dans le texte programmatique au début qui s'appelle Lettre au provincial, qui est une allusion au provincial de Pascal. Mais le provincial. Pour Peggy, ce n'est pas le provincial jésuite qui est le supérieur des jésuites, c'est quelqu'un qui habite en province, à qui Peggy, à travers les Cahiers de la Quinzaine, raconte les événements parisiens, en particulier tout ce qui touche à Dreyfus. Il publie ces cahiers, qui seront d'abord des cahiers d'information, où il collectera des articles de différents journaux, il demandera des comptes rendus, des réflexions, pour que les gens en province sachent ce qui se passe à Paris. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le destine aussi à des gens de tous les métiers, comme des instituteurs, des médecins. Et là, il dit, vous voyez, l'intellect, au fond, c'est comme la nourriture. On a un estomac qui digère. Et ce qui est de l'ordre intellectuel n'est pas destiné à être rendu immédiatement. Pourquoi lire ces cahiers de la Quinzaine qui me parlent de choses qui ne sont pas forcément immédiates? Parfois, il y a des écrits aussi de fond. Parce que la nourriture intellectuelle est faite d'emmagasinement, de lente digestion. Et dit, mais peut-être ça ressortira 15 ans plus tard. Mais entre-temps, vous vous serez nourri. Et il prend compte le temps long. Le temps long de la vie intérieure et de la vie intellectuelle.
Quelles autres œuvres de Peggy voudriez-vous mentionner avant que nous abordons la fameuse boucle chrétienne, le retour à la religion chrétienne? Quelles autres œuvres voudriez-vous mentionner pour les auditeurs de Radio Courtoisie?
Alors, sans doute notre jeunesse, que notre auditeur a cité tout à l'heure, c'est un texte de 1910 où Peggy raconte sa jeunesse dreyfusiste. Voilà. Qu'est-ce que c'était sa jeunesse? Il a, dans les Cahiers de la Quinzaine, un collaborateur, Daniel Alévy, qui vient d'écrire Apologie pour notre passé, où, au fond, il prend distance de ses engagements dreyfusistes. Et Peggy dit, non, moi, pas du tout. Moi, pas du tout. Moi, je ne prends pas distance. Moi, je continue. Et dans ce texte, il tire un peu sur tout le monde. Et c'est un texte phénoménal, que c'est très vivant, ça touche à plein d'aspects. Il y a beaucoup de pages sur Bernard Lazare, qui était ce juif journaliste, qui était un des premiers à avoir défendu Lazare. Et là, Peggy dit « Il ne sera pas dit qu'un chrétien n'aura pas défendu un juif ». C'est un des textes les plus clairs où on voit que Peggy n'a rien d'antisémite. Voilà. Comme on a pu, quand même, des critiques littéraires comme Henri Lévy l'ont accusé d'antisémitisme. En fait, là, on voit, il n'y a absolument rien. Tout le contraire. Dans notre jeunesse, il y a aussi, outre la question de réfugiés, c'est la question du droit de vote dont j'ai parlé avant. Ce droit de vote qui semble ridicule, et pourtant des gens sont morts pour ça. Il introduit cette formule de la mystique et la politique. Tout commence en mystique et finit en politique. C'est-à-dire, tout commence par un grand idéal, un engagement, et puis ça s'use et on finit par des tractations, voilà, pour avoir un poste au Parlement. Il y a des réflexions extrêmement pertinentes sur le modernisme et le modernisme du cœur. Et là, il s'adresse en particulier aux chrétiens. Il leur dit... Vous dites que la déchristianisation est due à la science, parce qu'elle a trouvé des arguments infaillibles. Mais moi, je vous dis, la cause de la déchristianisation, c'est que l'Église n'est plus une communion. C'est que les cœurs chrétiens sont devenus des cœurs modernes et qu'il n'y a plus une once de charité. S'il y avait seulement une once de charité, tous ces raisonnements tomberaient de même. Et on voit comment l'ancien idéal socialiste de solidarité, de service et tout, revient dans le christianisme. Donc très beau texte. Et deuxième, en lien avec notre jeunesse, c'est le texte sur l'espérance. Le texte qui a un titre, comme Peggy en seul sait en faire, ce titre incompréhensible. Donc c'est le porche du mystère de la deuxième vertu. Deuxième vertu, sa deuxième vertu théologale, donc la foi, l'espérance, la charité, c'est l'espérance. Le porche du mystère, donc le porche dans une cathédrale, c'est là où on entre. Alors cette œuvre est comme une entrée, comme une porte dans le mystère de l'espérance. Le mystère, c'est aussi bien une œuvre d'art, enfin une pièce de théâtre, que la réalité elle-même de l'espérance. Où Peggy nous parle de l'espérance sous plein de points de vue. Par exemple, il y a cette image qu'on connaît de la petite fille Espérance, qui est d'ailleurs imaginée de sa fille Germaine qui courait à côté de lui. La Vierge, comme jeune et belle comme l'espérance. Les saints qui luttent pied à pied pour sauver les âmes damnées. Et puis ça se termine sous cette vision du Vendredi Saint où Dieu le Père dit « Moi seul, Père entre tous les pères, je n'ai pas pu enterrer mon fils. Et c'est alors aux nuits que tu vins, et la nuit qui vient comme enterrer le fils et pouvoir faire ce que Dieu le Père ne peut pas. » Et donc l'espérance comme ce grand voile qui vient tout recouvrir et qui chaque nuit aussi nous renouvelle dans le sommeil.
Alors Nicolas Fagenéris, malheureusement qu'une grosse dizaine de minutes a passé en votre compagnie pour aborder... les dernières boucles de votre livre, Peggy, un cœur qui a tant battu, balade sur ses pas aux éditions Salvator. Il y a la fameuse boucle chrétienne, c'est-à-dire son retour à la foi. Et puis il y a la boucle française, notamment dans laquelle vous évoquez effectivement la vision que Peggy a de la France. Vous l'avez évoqué au début de notre entretien, pour Peggy, la France, c'est une personne. Elle a une âme, oui. En quelque sorte. C'est la mère de la liberté, mais quelle liberté, de quelle liberté s'agit-il? Et évoquez bien sûr Chartres, naturellement Chartres avec donc ce quatrain que souhaite entendre notre auditeur, Étoile de la mer, et puis bien sûr la toute fin de Charles Peggy. Auparavant, nous allons faire une toute petite pause musicale pour écouter en effet un très beau poème de Charles Peggy, Heureux ceux qui sont morts, c'est mis en musique par un grand compositeur et un grand organiste qui lui aussi est mort pour la France le 20 juin 1940. Je crois qu'il faisait partie des combats de Saumur. Il s'agit de Jehan Alain. Donc nous écoutons Heureux ceux qui sont morts. Et puis après, dans la fin de notre discussion autour justement de ces boucles, la boucle chrétienne et la boucle française. Nicolas Faguet, je vous propose que nous abordions la boucle chrétienne et la boucle française, qui sont quasiment les dernières boucles, telles que vous les présentez dans votre livre passionnant et mouvant, Peggy, un cœur qui a tant battu, balade sur ses pas, et que vous publiez aux éditions Salvatore. La boucle chrétienne et la boucle française, on va passer pour la boucle française du temps naturellement sur Chartres, hein, ce pèlerinage de Chartres qui l'amène à Chartres et c'est qu'il en a écrit. Nous vous écoutons.
Oui, alors, peut-être sur ce retour au christianisme, qu'est-ce qui fait qu'il revient? Alors, Peggy n'est pas un converti comme d'autres qui ont eu des illuminations, des retournements comme Claudel, comme d'autres. Lui, il dit que c'est par approfondissement du cœur. Il veut pas qu'on parle de lui comme d'un converti. Il dit qu'il est toujours allé tout droit. Et au fond, c'est ce qu'il cherchait en quittant l'Église, il le retrouve dans les évangiles. On a parlé de son idée de communion, on a parlé peut-être aussi de ses figures d'engagement, de Jeanne d'Arc. Il découvre ça dans les saints. Et peut-être une autre figure, c'est la figure du professeur paternel, la figure paternelle qu'il a trouvée chez ce Louis Boitier, l'artisan, chez les instituteurs. Et puis lui-même, ayant des enfants, il peut parler comme en fait personne avant lui de la figure de Dieu le Père, et dans un poème merveilleux, très long, ça fait 200 pages, un texte s'appelle Le mystère des saints innocents. Il décrit, il fait parler Dieu le Père, et Romain Rolland, un de ses amis, il disait je n'ai jamais lu personne qui fasse parler Dieu le Père. En particulier dans une grande image qui s'appelle des pages de la flotte des prières. Il dit, donc c'est Dieu qui parle, et à présent il faut que je les juge comme un père. Un homme avait deux fils. On sait assez comment un père juge, il y a un exemple connu. On sait assez comment le père a jugé le fils qui était parti et qui est revenu. C'est encore le père qui pleurait le plus. Il nous donne cette image de Dieu le Père comme celui qui pleure le plus. Et puis il dit, voilà, comme je suis forcé de les voir, il voit toute l'humanité comme une immense flotte de prières conduite par Jésus, qui lui, notre Père. Et il dit, et maintenant, comment voulez-vous que je me défende? Comment est-ce que je pourrais continuer, au fond, à les damner? Comment je pourrais les condamner maintenant qu'il m'appelle notre Père? Et puis il voit derrière la flotte des « Je vous salue Marie » et toutes les autres prières. Et puis il dit, il voit aussi la flotte invisible, la quatrième flotte, qui sont tous les obscurs mouvements du cœur, les obscurs bons mouvements, les secrets bons mouvements. Et il a comme une vision d'une sorte de prière universelle qui est là. Et parlant de cette flotte de Marie, il dit « Ce sont, de tous les vaisseaux, ce sont les plus opportunes, c'est-à-dire celles qui se présentent le plus directement devant le port. » Vous voyez, un jeu de mots, opportune, le port. Et ça, ça nous conduit au pèlerinage de Chartres, que Peggy décrit justement comme une navigation. Alors, il commence par ces vers magnifiques. « Étoile de la mer, voici la lourde nappe, et la profonde houle et l'océan des blés, et la mouvante écume et nos greniers comblés, voici votre regard sur cette immense chape. » Donc, on peut imaginer la cathédrale qui regarde tous les champs de blé, mais l'immense chape, c'est aussi la chape de la Vierge Marie, donc le vêtement qui est conservé à Chartres, qui est la relique, qui justifie l'existence de cette cathédrale, qui est le vêtement que la Vierge Marie aurait eu le jour de la visite de l'ange et qui était ramené de Constantinople au IIe siècle. Et pour Peggy, cette chape de la Vierge est le lieu de son expérience spirituelle la plus forte et qu'il décrit dans son œuvre. Il dit comment, en allant vers Chartres, il dit « Je ne sentais plus rien, ni la fatigue, ni mes pieds. Toutes mes impuretés sont tombées d'un coup. J'étais un autre homme. » Il se sent de devenir un autre homme. Et pourquoi il devient un autre homme? Parce que, là je relis un vers qu'on a lu tout à l'heure, parce qu'en entrant à Chartres, il dit « Voici le jardin secret où l'âme s'ouvre toute. » Là, toute son âme s'ouvre et puis il dit « C'est ici, c'est la révolte ici que devient impossible. » C'est une époque où il a beaucoup de difficultés dans le travail, avec sa femme qui ne comprend pas son itinéraire spirituel. En même temps, il est tombé amoureux de cette jeune femme et il a écrit cette ballade du cœur qui a tant battu. Il vend peu de revues. Il a un enfant qui est malade, il y a tout un tas de choses, rien ne va. Il dit, voilà, il faut que j'aille à Chartres. Et là, son âme s'ouvre toute, la révolte devient impossible. Il obtient, là, il dit, il demande une fidélité plus forte que la mort. Et puis, il dit, c'est ce lieu de Chartres, il écrit, voici le lieu du monde où tout devient enfant. Et surtout, ce vieil homme avec sa barbe grise et ses cheveux mêlés au souffle de la brise et son regard modeste et jadis triomphant. Donc, en allant à Chartres, il fait une expérience intérieure de renouvellement. Et pour lui, le péché, c'est surtout d'être vieux dans son âme. Voilà, il fait une expérience de redevenir enfant. Il l'écrit dans des poèmes magnifiques. C'est la tapisserie de Notre-Dame. Et au fond, il nous dit, voilà, c'est là que tout peut recommencer pour chacun d'entre nous. C'est comme une sorte comme d'utérus spirituel.
Qui lui a soufflé Chartres?
Qui lui a soufflé Chartres?
Oui. Est-ce venu? Vous avez expliqué ses difficultés, ses questions.
Pourquoi aller à Chartres?
Oui, pourquoi Chartres, justement? Pourquoi est-il allé à Chartres? Ce sera, je pense, la dernière question que je vous poserai, Nicolas Fayet.
Alors, écoutez, lui dit qu'il est né à Orléans, et Chartres, c'est la Vierge de ceux qui sont dans la Beauce. Voilà, c'est la Vierge...
Donc c'est tout naturellement qu'il se tourne vers Chartres.
Nous sommes menés pour vous au bord de ce plateau.
Il a été apaisé. Il n'y a pas eu forcément de solution concrète, c'est ce que vous écrivez, mais ouais. Après Chartres, il est apaisé.
Après Chartres, il est apaisé et il peut dire oui aux situations inextricables qu'il vit. Et bon, je dis voilà, sa femme n'était pas croyante, d'enfants non baptisés, et 11 ans après sa mort, ils seront baptisés. Okay. Et voilà, Peggy qui disait « Mes enfants ne sont pas baptisés à la Sainte Vierge, je s'en occuper. »
11 ans après sa mort, sa femme et ses enfants
se feront baptiser.
Eh bien, Nicolas Fayet, nous terminons sur cette belle histoire très, très émouvante. Vous en racontez bien d'autres aussi dans votre ouvrage « Peggy, un cœur qui a tant battu, balade sur ses pas » que vous publiez donc aux éditions Salvatore. Merci beaucoup à vous d'être venu ce soir en direct dans le studio. Merci à vous, Nicolas Fayet.
Merci beaucoup, merci.